dans Dire et des Nouvelles,
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine. Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Bonjour, bonsoir. Imaginez une plume qui dessine un pont. La plume d'un hibou, d'un condor ou d'une buse de la cordillère des Andes. Une plume alerte et magique trempée dans une encre rouge comme le sang de la guerre, bleue comme le ciel, marron comme la terre des ancêtres, verte comme un coteau de vigne, jaune comme un soleil d'hiver. Une plume qui dessinerait donc un pont au-dessus de l'Atlantique, entre la France et le Chili, entre l'Europe et l'Amérique, entre la langue française et l'imaginaire latino-américain, entre le passé et le futur aussi. Cette plume, elle existe, c'est celle de Miguel Bonnefoy, et ce pont existe aussi. C'est le roman d'une famille sur quatre générations, une saga familiale et pleine de fantaisie, un ballet onirique entre le remords et la fierté, entre l'humain et l'inhumain, entre la vie et la mort. Héritage de Miguel Bonnefoy est paru aux éditions Rivage, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Miguel Bonnefoy.
Bonjour.
Cette dualité que je décrivais à l'instant, elle est présente à chaque page du livre, presque à chaque paragraphe, à chaque ligne, mais elle est aussi sur la couverture, rien qu'à travers votre nom, à travers votre identité. Miguel, prénom, nom, Bonnefoy. Vous avez-vous combien de cultures en héritage?
J'en ai trois. Je suis né à Paris, donc j'ai bien sûr l'héritage français. Mon père est chilien, donc il y a dans mon cœur, bien sûr, un pan qui est chilien. Et puis de l'autre côté, ma mère étant vénézuélienne de Maracaibo, fatalement, le Venezuela fait aussi partie de cette raison. Il y a trois ficelles qui composent comme ça une tresse et qui fait que c'est ce que j'essaye comme ça de développer dans les livres aussi, des ponts comme ça entre plusieurs cultures, des passerelles.
Voilà, donc pont, passerelle, donc idée tout de suite de déplacement, d'aller-retour, de va-et-vient, on va y revenir, et donc de migration. La migration, elle est dans votre héritage aussi?
Absolument. Eh bien, plus je regarde à un niveau générationnel, plus je vais chercher dans l'écorce, les racines et le feuillage de mon arbre généalogique, et plus j'observe qu'il y a des déracinés, des exilés, et qu'on est juste une longue et lente lignée de personnes qui sont sans cesse déplacés. Mais heureusement, on n'a pas du tout le privilège, ni l'Amérique latine, ni l'Europe des déplacements, depuis que Adam et Ève ont quitté le jardin de l'Éden, depuis ce premier exil forcé des portes du paradis. L'histoire de l'humanité est une histoire de migration à l'aune des démesures coloniales, des guerres et des guerres fratricides, comme ça, et intestinales, qu'on peut avoir dans différents continents. Donc, ma famille est tout simplement en filigrane et en transparence une projection de toute autre famille.
Et pour migrer, il faut une bonne raison en général au départ. Hein. Et c'est le cas de cet homme de l'Est de la France qui est le premier de la lignée dont vous nous racontez l'héritage. Un vigneron du Jura ruiné par le phylloxéra, donc ce puceron qui a fait d'énormes dégâts hein, dans les vignes en Europe à la fin du 19e siècle. Cet homme, il quitte la France pour refaire sa vie avec un cep de vigne en poche. L'idée, c'est de rallier la Californie, mais bon, le voyage est un peu compliqué. Il est malade au moment où il passe le détroit de Magellan, donc à l'extrême pointe de l'Amérique du Sud, et il débarque au Chili, dans le port de Valparaíso. Et ce débarquement, Miguel Bonnefoy, c'est pour lui un nouveau départ, et même une nouvelle naissance, parce que son identité même va changer. Et dans des circonstances assez drôles, parce que cette nouvelle vie, c'est par une forme d'ignorance qu'il va l'acquérir.
Absolument. Oui, bien entendu. Eh bien, en effet, je m'étais imaginé l'idée de pouvoir renommer le personnage au seuil du livre, à l'aube du livre. Et je ne voulais pas parler des bonnes fois directement. Je ne voulais pas du tout faire un livre autobiographique. Je ne voulais pas faire une archive du passé. Je n'avais pas envie de parler de moi, de mes affaires et de mes ancêtres. Sinon, au contraire, de pouvoir faire œuvre d'écrivain, c'est-à-dire de me permettre le luxe de modifier, de styliser et de reprendre l'histoire. Quoi qu'il en soit, la première astuce narrative, la première ruse, était celle justement de rebaptiser les personnages au début du livre pour pouvoir leur donner cette nouvelle identité, cette renaissance, avec bien sûr la métaphore de la vigne qu'on déracine dans un continent et qu'on replante dans l'autre. De la même manière, à un niveau sémantique, on déracine un mot, un nom qui est celui de Bonnefoy, pour pouvoir le replanter sur les flancs de la cordillère avec Lonsonnier. Et donc l'anecdote, en effet...
Donc Lonsonnier, alors pourquoi Lonsonnier?
Bravo. Donc le personnage vient de Lons, le saunier, dans le Jura. En arrivant à Valparaíso, il se trouve dans une longue queue devant un agent d'immigration et se rend compte qu'à chaque fois on lui pose deux questions. Il s'imagine la première est d'où vous venez, la deuxième logiquement vers où vous dirigez. Et lorsqu'il arrive devant, le type lui demande « Nombre, comment se llama ?» Comment vous vous appelez? Et donc convaincu qu'on est en train de lui poser la question d'où il vient, répond « Lons le saunier ». L'agent hausse les épaules et écrit comme ça sur sa fiche d'immigration « Lonsonnier.
Et c'est ainsi que commence donc cette nouvelle vie, que commence cette nouvelle dynastie, hein, puisque ce personnage de Lonsonnier, on va continuer à l'appeler ainsi, va se marier avec Delphine, une femme d'origine française, elle aussi, hein, puisqu'elle descend de négociants bordelais, de négociants en parapluie, voilà, et c'est vrai qu'il pleut beaucoup à Bordeaux, hein, encore, encore aujourd'hui. Et petit à petit, Miguel Bonnefoy, on entre dans l'intimité des Lonsonniers qui vont donc s'établir au Chili, mais qui continue quand même de vivre un peu à la française. C'est une vie traditionnelle, ça, pour les émigrés d'époque ?
Alors absolument. Fin 19e, énormément de Français, mais également des Allemands, s'installent dans le sud de l'Amérique latine, au Chili, et recréent une petite France à l'étranger. Ils vont parler en français à leurs enfants, se marient entre Français, fondent des écoles françaises, fondent des épiceries françaises, ne lisent que les journaux français, et continuent en effet, même dans les écoles, à répéter des cours qu'on donne dans les lycées français. Et tout à coup, on se rend compte qu'ils finissent par imaginer et revivre une sorte de France qui n'existe plus, qui est une France d'hier, une France qu'ils habillent comme une sirène, comme une duchesse viennoise, qui n'a plus rien à voir avec la France qui est à 12 000 km de distance, mais au contraire, une sorte de France mythologique, onirique, était tout comme ça baignée d'une lumière nouvelle. Et c'est complètement dingue parce que tu te rends compte à quel point cet anachronisme comme ça, cette espèce de peuple exilé finit par se sentir beaucoup plus français que les Français eux-mêmes dans leur pays d'origine.
Alors il y a quand même un métissage pour la cuisine, hein, puisque il y a, alors je cite, hein, un petit passage du livre, des empanadas farcies de boudin, du coq au Malbec, des pasteles, des raibas avec du maruay.
Bravo. Ouais,
je sais pas si je prononce bien l'espagnol parce que je suis...
Parfaitement, c'est avec un léger accent chilien.
Ah bon, très bien, bah, écoutez, moi, j'ai encore beaucoup de progrès à faire. Moquez-vous, Miguel Bonnefoy. En tout cas, ça donne une idée effectivement de la saveur qu'il peut y avoir aussi dans votre langue, hein, à travers ce roman héritage. Et cette dimension, cette culture française à l'étranger, cette petite France à l'étranger, elle est aussi incarnée par Thérèse, qui va devenir la femme de Lazare. Lazare, c'est le fils du premier Lonsonnier. Et le père de Thérèse lui-même est aussi d'origine française. Et c'est un grand musicien très respecté qu'on a surnommé El Maestro. Alors lui, pourquoi il a choisi l'exil ?
El Maestro a choisi l'exil parce que tout simplement, il décide d'aller jouer de la musique à l'autre bout du monde. D'où m'est venue cette idée ? Elle est tirée d'un personnage extraordinaire, et là où j'ai triché, c'est que ce personnage est vénézuélien et non pas chilien, qui s'appelle El Maestro Abreu, et qui est le grand architecte de ce qu'on appelait le Sistema de Orquestas au Venezuela, avec Gustavo Dudamel, qui fait partie des grands chefs d'orchestre qui aujourd'hui s'occupent de la Philharmonie de Los Angeles. Et en effet, El Maestro était ce Maestro Abreu qui est parti de l'Italie pour aller au Venezuela, avec une flûte et une trompette dans sa poche, s'installe au Venezuela, ouvre une petite école de musique et petit à petit commence à se rendre compte qu'il est possible de demander de l'argent au ministère pour pouvoir fonder un système d'orchestre et donc faire des noyaux dans différentes villes du Venezuela pour lutter contre la misère, la pauvreté, la prostitution et la drogue en mettant dans les bras des enfants des bidonvilles des violons, des pianos et des saxophones pour pouvoir les sauver. Et donc créer un système d'orchestre dans lequel si toi tu joues bien, alors ça veut dire que ton voisin joue bien, l'autre joue bien, ensemble on peut faire une symphonie. De la même manière, dans le système social, si toi tu t'occupes bien de ce que tu es en train de faire, celui qui est à côté lui aussi profite de ça, à côté profite de ça, et dans un système architectural social, tu finis par faire un bon système économique. Donc il s'est basé là-dessus avec l'analogie de la musique. Je me suis tout simplement inspiré d'El Maestro Abreu pour pouvoir développer le personnage d'El Maestro, qui donc arrive en effet à Marga Marga, au milieu du Chili, dans un endroit qui s'appelle Limache, pour pouvoir ouvrir cette école de musique, devenir un personnage important qui prend des décisions importantes dans le village et au sein de sa société, et finalement en effet va avoir comme fille Thérèse, qui elle devrait être chanteuse, mais il y a une épidémie de coqueluche qui apparaît dans le village. Elle est obligée de partir dans les montagnes, et c'est là alors où elle découvre le silence des oiseaux.
Elle découvre le silence des oiseaux et elle tombe sur Lazare. Alors, la rencontre entre les deux personnages est vraiment très belle. Ça se passe d'ailleurs grâce à un oiseau, hein, grâce à une buse bleue des Andes. Les oiseaux, ils sont omniprésents dans le roman, Miguel Bonnefoy, par leur cri, par leur couleur, par leur chant, par la beauté de leur vol. L'oiseau, c'est un vecteur de rêve incroyable.
Alors, vecteur de rêve tout à fait incroyable. Vous avez raison. raison. Cependant, Thérèse s'intéresse aux rapaces qui ont quelque chose de beaucoup plus nocturne, beaucoup plus sombre, beaucoup plus inquiétant comme ça, et plus gothique. Et j'ai voulu en effet souligner cet aspect-là des oiseaux qui sont plus les oiseaux nocturnes, pas les oiseaux de malheur, mais presque quelque chose.
Le premier oiseau de Thérèse, c'est un hibou.
C'est un hibou. Voilà. Donc fatalement, c'est un hibou. Mais figurez-vous, et peut-être on en parlera un peu plus tard, c'est aussi par rapport au personnage de Margot l'aviatrice, j'avais envie en effet de lui donner une sorte de présage. Et avant de placer des oiseaux dans le roman, j'avais déjà pensé à cette aviatrice et ça s'est fait un peu en marche arrière. C'est-à-dire que je voulais absolument qu'il y ait une aviatrice dans le livre. Et donc je me suis dit, ça ne peut pas tout à coup être aviatrice. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir ce côté démagogique de l'auteur de dire, moi j'impose que mon personnage soit aviatrice. Non,
il fallait préparer son arrivée.
Il fallait le préparer. Il fallait en effet poser les pierres, il fallait poser des graines, ce qu'on appelle des inserts, pour pouvoir voir plus tard fleurir dans les chapitres suivants la fleur que tu as plantée. Non. Et donc ceci se passait avec sa mère, bien entendu, en développant le personnage de Thérèse, qui elle était fascinée par les oiseaux, et donc qui était une sorte de présage et d'oracle pour que sa fille, elle, construise un oiseau de métal dans son jardin.
Voilà, donc un avion, on va y revenir, et c'est vrai que la naissance même de Margot se fait sous le patronage, en quelque sorte, des oiseaux, puisque c'est dans une volière que Thérèse va mettre au monde sa fille. Nous sommes page 65 de votre roman.
En une semaine, elle fit transporter près de 50 oiseaux de 25 espèces différentes. Elle faisait des allers-retours réguliers, ordonnait la disposition des lieux en vérifiant leur alimentation. Un livre à la main, elle disposait des bâtonnets à base d'œufs et d'oranges, retrouvant ainsi, pendant cette période, les occupations rurales qu'elle avait eues dans ses jeunes années à Rio Clario. Deux jours plus tard, lors d'un après-midi clair, pendant qu'elle remplissait les nichoirs, elle sentit une douleur si pointue dans son ventre qu'elle dut s'asseoir au centre de la volière. L'enfant remua avec férocité dans ses entrailles, s'agita violemment dans ses profondeurs. Mais les activités du chantier, les rangements de la maison, les fatigues du potager l'avaient préparée physiquement à ce moment. Elle ferma alors la porte de la cage, leva les bords de sa robe et, sous le regard ahuri des padas du Japon, se prépara à accoucher sur un sol d'écorce de pin. Ce furent alors des heures de hurlements, respirations et contractions qui attirèrent toutes les matrones du voisinage et tous les enfants du quartier, si bien qu'il y eut rarement un accouchement avec autant de témoins que celui de Thérèse Monsonnier. Ramassée au sol, elle lutta contre cet ange invisible qui jaillissait d'elle, rompu par sa présence incandescente, se laissant guider par les étranges et difformes pupilles des moineaux et des canaris. Cette déchirure qui s'agrandissait entre ses jambes, cette tête fétide et imbibée qui apparaissait, c'était la difficile offrande qu'elle faisait au monde, mais aussi la jalouse appropriation par laquelle la volière tout entière réclamait son baptême. Une petite boule couverte de sang et de plumes sortit du ventre de Thérèse et roula sur sa tête comme un œuf au milieu des tumultes et des piaillements, d'un concert de cris et de ululements. Son visage minuscule, couvert d'un duvet de vautour, fixait le dôme en bronze d'où le hibou de Thérèse l'observait, avec un silence majestueux. La petite fille s'enroula dans le coude de sa mère, comme si elle se levait dans un nid, et c'est alors que quelque chose fondit dans le cœur de Thérèse d'une insoutenable tendresse. Étonnée par la brusque bénédiction qui venait de lui tomber sur les épaules, elle leva l'enfant dans ses bras. Et cette naissance constitua un changement si frappant dans son équilibre qu'à compter de ce jour, elle qualifia les nouvelles en les datant d'avant ou après.
Voilà, un des plus beaux, et ils sont nombreux, un des plus beaux passages de votre roman, Miguel Bonnefoy. On l'a entendu, vous utilisez une langue française qui a l'air très simple, très sobre, très pure, des mots qui ont l'air d'être choisis et sertis avec grand soin. Une langue très française et en même temps, votre écriture sonne terriblement latino-américaine, peut-être par sa musicalité, par sa luxuriance aussi. Vous avez conscience de ça? C'est quelque chose que vous fabriquez ou c'est quelque chose qui arrive complètement naturellement, sans que vous vous posiez de questions sous votre plume?
Eh bien, il y a sans doute les deux. D'un côté, bien sûr qu'il y a un héritage latino-américain avec beaucoup de lectures en espagnol, avec cette luxuriance, ce baroque, comme cette frondaison et cette nécessité aussi qu'il y ait beaucoup de pulpe dans la page. Et d'un autre côté, puisque moi j'ai en partie étudié en France aussi, il y a cet aspect plus rationnel, plus cartésien, plus structuré, plus équilibré de la langue française.
Et j'essaye. Et le dosage entre les deux, justement, comment vous le fixez, ce dosage?
Alors le dosage, en effet, il se fixe petit à petit. Je dois avouer qu'il y a beaucoup de travail derrière. Moi, je ne suis pas suffisamment bon écrivain pour pouvoir écrire la phrase juste du premier coup. Donc je reconnais en effet que je travaille énormément. Je lance une première idée, je me rends compte que la phrase est peut-être un peu trop vaste, trop compliquée, trop dense. Je fais beaucoup de recherches à côté. Donc bien entendu.
Par exemple, sur les oiseaux, vous avez épluché
tous les livres,
toute une documentation sur l'ornithologie,
sur l'ornithologie, sur la construction des volières, sur l'alimentation, sur comment il faut en effet s'en occuper en hiver, comment tu dois t'assurer qu'il y ait par exemple en bas au sol de la volière des plaques de béton pour éviter que les fouines y pénètrent. Enfin, ce type de choses dans lesquelles on n'y pense même pas.
Mais c'est important de donner tous ces détails-là au lecteur.
Eh bien, c'est ce que Roland Barthes a appelé l'effet de réel. C'est-à-dire que ça lui donne un je ne sais quoi en plus dans lequel on a l'impression d'y être, dans lequel tu as l'impression que le personnage est réellement en train de respirer, en train de marcher, et que plus tu es en train de décrire ton personnage, plus tu es en train de le travailler, plus tu es en train de le développer, et plus tu te rends compte au bout d'un moment que ce que tu es en train de décrire est de la peau et non pas de la page. Et ça se fait en effet avec ce jeu d'effet de réel. Mais si ta première version du texte est très documentée, elle devient illisible. Ce ne sont que des taches comme ça de mots et de vocabulaire compliqués au milieu de la page. Et ton travail est celui justement d'équilibrer, de doser, d'injecter un petit peu de fiction, de reprendre au niveau comme ça des jeux de balance pour t'assurer il y a aussi des phrases un peu béquilles au milieu des phrases lourdes.
Donc injecter un peu de magie dans le réel, donc le réalisme magique, vous voyez très bien où je veux vous emmener. Miguel Bonnefoy, on pense forcément à Gabo, à Gabriel Garcia Marquez, 100 ans de solitude notamment, vous êtes pétri aussi de cette littérature-là.
Absolument, tout à fait pétri de cette littérature, cependant il ne faut pas oublier que le réalisme magique n'est pas le privilège des auteurs latino-américains, puisqu'on retrouve par exemple avec Marcel Aimé, par exemple avec Sylvie Germain, et même par exemple avec mon ami Gilles Marchand, ou même avec Carole Martinez, on peut trouver déjà un petit peu de magie et de surnaturel dans des contextes structurels, narratifs, naturels. Et pourtant, on voit comment ils arrivent comme ça à jouer avec cette goutte de cyanure dans un verre d'eau. Mais à côté, tu as en effet les Russes avec Bulgakov ou avec Gogol. Tu as, dans les Italiens, tu as Pirandello. Et le Don Quichotte a quelque chose du réalisme magique. Tu vois, donc Kafka. Franz Kafka.
Ce réalisme magique, ça se voit effectivement dans votre écriture, dans l'imaginaire collectif que vous avez construit pour écrire ce roman. Ça se voit aussi à travers un personnage, à travers le personnage d'Aucan, le chaman mapuche qui à plusieurs reprises va interférer comme ça dans la destinée de vos personnages. On parlait de prédestination il y a un instant à propos du personnage de Margot. Finalement, c'est un peu lui aussi le fil rouge de l'histoire de l'ensemble des protagonistes du roman.
Oui, tout à fait. J'aime beaucoup cette idée de fil rouge, et Aucan fait partie des personnages qui vont être pendant toutes les générations une sorte d'acteur important, essentiel, capital de chacun des destins.
Un petit tour et puis s'en va, c'est très fugace ces apparitions, et pourtant elles sont fondamentales.
Exactement, comme des coups de baguette comme ça, comme un voile qui passe, un je ne sais quoi, qui donne aussi un aspect un peu plus pétillant et plus rebondissement au roman, pour ne pas seulement rester dans des destins tragiques, dans des guerres, dans des personnages qui peuvent avoir des noirceurs ou des dilemme cornélien à l'intérieur, sinon au contraire donner un petit peu de cascabelle comme ça, donner quelques bracelets, quelques jeux de couleurs, quelques herbages. Et donc Aucan représente aussi tout le pan indigène mapuche du sud du Chili, de l'Araucaria, et c'était important pour moi que dans le personnage il n'y ait pas que des blancs, des Français, ou tout simplement des personnages comme Hector Bracamonte, qui sont bien sûr des Chiliens locaux, qu'il y ait aussi la présence mapuche, qui est essentielle en Amérique latine dans notre identité continentale.
Alors le Hector en question, de Bracamonte, on en a déjà croisé quelques-uns dans vos romans précédents.
Absolument.
Il y a une sorte comme ça de... C'est un clin d'œil ou ça va un peu plus loin?
Alors on pourrait en parler pendant des heures, et moi je serais heureux en effet de revenir pour parler essentiellement des Bracamonte, mais figurez-vous que dans chacun de mes livres il y a un Bracamonte, car j'essaie de constituer humblement une sorte de grande fratrie qui va couvrir comme un couvercle tous mes livres et qui sont en effet les Bracamontes et qui se retrouvent ici et là, et chacun représente aussi un sentiment, une émotion et un glissement, un mouvement du monde que j'ai envie d'exprimer à travers ces personnages. Donc ce sont quelque part comme des pierres d'attente, un peu comme dans les constructions où on a des pierres comme ça d'attente qui restent dans les immeubles en attendant qu'il y ait un immeuble mitoyen pour pouvoir s'installer dans cette autre pierre. Et on appelle ça aussi des pierres en harpe. Donc ça me fait penser à l'arpège, et quelque part en fait ce sont les mêmes notes d'une grande symphonie que j'essaie de mettre ensemble dans une partition qui sont les livres.
Le romancier Miguel Bonnefoy qui publie Héritage aux éditions Rivage, un roman que vous allez d'ailleurs pouvoir gagner à la fin de l'émission en répondant à la question du jour. Et la guerre, elle est très présente hein, également dans votre livre, Miguel Bonnefoy, puisque deux des membres de la famille Lansonnier vont s'y illustrer. Le premier, c'est Lazare, la toute première scène du livre. Hein, elle montre d'ailleurs Lazare dans son bain en train de lire que la guerre a éclaté en Europe, la Première Guerre mondiale, et sans hésiter, il va partir en Europe, il va aller s'engager aux côtés de la France, c'est une évidence.
Absolument, et ça semble complètement fou aujourd'hui, et pourtant à l'époque c'était une réalité. Et la nécessité presque biologique de partir servir un pays qui n'est pas le tien.
Mais qui est un peu le sien quand même.
Qui est un peu le sien, absolument. Et donc ses parents sont arrivés migrant au Chili. Lui est né au Chili, donc c'est quelqu'un qui parle espagnol, qui parle aussi français, mais qui n'a jamais mis un pied en France, qui connaît toute la culture française, toutes les coutumes, des mœurs, des traditions françaises, et cependant, jamais il n'a mis un pied en France. Et cette francomanie, cette francophilie, cette nécessité d'appartenir à un pays comme ça, qui n'est finalement pas le tien, ou du moins que tu as rêvé, est telle que lorsque la nouvelle de la Première Guerre mondiale arrive jusqu'au Chili, il se sent tout à fait obligé et surtout légitime de pouvoir traverser l'Atlantique avec ses frères, aller servir un pays, aller défendre un drapeau et aller se battre contre des frères allemands dont il n'a rien contre eux. Mais pourtant, ça lui semble évident qu'il doit aller s'enfermer pendant 4 ans dans une tranchée pour aller tirer sur des jeunes qui ont son âge.
Et hasard incroyable ou destin, je sais pas. C'est aussi le mot qu'il faut choisir, Miguel Bonnefoy. Il va donc croiser sur un champ de bataille un certain Helmut Drichmann qui justement est pas son frère, mais son voisin, enfin voilà. Bon, on va pas en dire beaucoup plus sur la figure d'Helmut Drichmann, sauf qu'une question quand même, c'est une figure qui va devenir absolument entêtante pour lui. C'est une sorte d'œil de Caïn, quoi. C'est une forme de c'est la figure de la culpabilité, Drichmann.
Absolument, absolument. J'aime beaucoup cette idée, ouais, l'œil était dans la tombe.
Voilà,
et regardez,
Victor Hugo, la légende des siècles.
Bien entendu. Et j'aime beaucoup cette idée. Helmut Drichmann va apparaître, oui, comme une sorte de spectre nébuleux, comme une sorte de fantôme, comme une obsession, comme une sorte de monstre ardent, comme ça, qui est à l'intérieur du cœur de Lazare. Il ne sait pas réellement comment s'en défaire. Et parallèlement à ça, il a besoin de lui aussi pour s'épauler, pour s'accoder, pour continuer à vivre, pour savoir d'où il vient, quelles ont été ses douleurs, comment sont morts ses deux frères. Et même si ça vous semble incroyable, il se trouve que cette histoire du puits d'eau de la Première Guerre mondiale et de cet Allemand chilien est une histoire vraie. C'est-à-dire qu'elle est réellement arrivée à mon arrière-grand-père Émile Bonnefoy, que moi j'appelle Lazare, et qui en revenant de la guerre, en ayant perdu un poumon, moi je décide en effet de l'appeler Lazare par rapport à Lazare de Béthanie, un clin d'œil, cet homme ressuscité, cet homme qui renaît. Mais l'histoire est vraie. Et il semblerait en effet que ce Émile Bonnefoy, que moi j'appelle Lazare, a continué sans cesse à essayer de retrouver cet Allemand chilien quelque part au Chili, et ou alors dans les contrées lointaines de son souvenir.
Voilà, avec donc toujours cette idée de culpabilité en tête. Et on va pas dire dans quelles circonstances, mais cette cette culpabilité, elle va être féconde, hein, je crois que le mot est juste, on va pas tout raconter, mais c'est une des scènes à la fois les plus étonnantes
oui.
et les plus belles aussi du roman. On va plutôt parler de l'autre Lonsonnier qui va faire la guerre. On a déjà prononcé son prénom tout à l'heure, c'est Margot. Donc c'est celle dont on a entendu tout à l'heure la naissance au milieu des oiseaux dans cette volière. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, avec une naissance pareille, eh ben on se dit qu'elle était prédestinée, puisque sa vie entière va être consacrée aux oiseaux de plume ou aux oiseaux de fer, elle va être consacrée au ciel avec l'idée de voler.
Tout à fait.
C'est la figure de la liberté, Margot, ou c'est la figure du combat, c'est la figure de l'élévation?
Alors, j'aime bien l'idée de l'élévation, j'aime l'idée du combat, j'aime aussi beaucoup l'idée de l'engagement, un double engagement. L'engagement, bien sûr, pour la Royal Air Force, à l'appel de Gaulle, mais aussi un engagement plus féministe, puisque c'est une des premières aviatrices du siècle, et qui rend quelque part hommage à des aviatrices comme Adrienne Bolland, comme Amelia Earhart, comme Maryse Bastier, qui ont fait partie de cette foule silencieuse, muette et éclatante des aviatrices, en effet, du XXe siècle. Et Margot Lonsonnier est bien sûr... je me suis inspiré de ce personnage et à travers la figure de Margot Duhalde, qui était réellement une aviatrice franco-chilienne, qui, elle, était partie en Angleterre pour aller combattre contre les Allemands, mais parce qu'elle n'était femme, elle n'avait pas le droit, en effet, d'utiliser les manchettes à mitraillettes, mais au contraire, tout simplement d'être auxiliaire en déplaçant des avions d'un aéroport à un autre. Donc on ne lui a pas donné la possibilité des gloires, en gros, des combats et des luttes, mais tout simplement de participer à un niveau un peu plus périphérique, plus en arrière-salle. Quoi qu'il en soit, Margot Duhalde finit la guerre vivante. Elle est décorée en France, ensuite décorée au Chili, ouvre une école d'aviation. Aujourd'hui, il y a un musée qui porte son nom avec une école d'aviation qui porte son nom également. Et elle est morte récemment, riche et célèbre, entourée de sa famille. Et je m'étais dit que ce serait beau de pouvoir justement parler de cette aviatrice, de cette grande aviatrice franco-chilienne, et utiliser un petit peu sa force, utiliser sa vie pour pouvoir développer ce personnage qui est un petit peu à cheval entre Lazare et Hilariola.
Et qui va, donc ce personnage, se lancer dans une entreprise absolument incroyable, construire un avion, son avion, dans le jardin, et pas n'importe quel avion, hein, Miguel Bonnefoy.
Oui, alors c'est un bel avion, c'est un avion qui va traverser la cordillère, qui va être important et qui va être aussi un avion calqué sur le modèle du Spirit of St. Louis, qui est l'avion en effet que Charles Lindbergh avait lui aussi artisanalement composé dans un petit jardin aux États-Unis pour traverser l'Atlantique. Donc je m'étais dit que si Lindbergh a pu en effet faire son avion artisanal dans un petit jardin aux États-Unis pour traverser un océan, eh bien sans doute Margot pouvait elle aussi construire en effet son avion quelques années plus tard pour traverser la cordillère. Mais ouais, non. Après, en effet, l'avion ne démarre pas tout de suite.
Non, voilà, puis... donc c'est compliqué. Hein, voilà, bon, tout fonctionne pas très bien. Mais bon, un jeune homme va l'aider, un voisin. Hein, là encore, très important les voisins aussi dans le roman. Hein, voilà, un voisin qui s'appelle Hilario Danowski. Alors lui aussi, c'est un fils de l'immigration. Alors lui, c'est un enfant juif d'origine ukrainienne. Sa famille a fui l'Europe. Alors ni par passion de la musique comme il maestro, ni à cause du phylloxéra comme l'ancêtre Lonsonnier. Pourquoi il est parti?
Alors il est parti en effet pour des raisons plus tragiques, plus sombres et plus noires, qui sont en fuyant les pogroms tsaristes. Il se trouve que cette histoire-là, et du coup je vous donne un peu les coulisses, parce que comme ça je trouve ça intéressant de voir un petit peu quelles sont les ficelles derrière,
bien
non
sûr.
Et c'est l'histoire de ma grand-mère, c'est-à-dire que ma grand-mère s'appelle Fanny Rosenzweig, et elle est ukrainienne, née dans un petit village de Tomaszpol, et faisait partie en effet de cette gigantesque communauté juive qui a pris un navire en fer à Odessa pour traverser l'Atlantique et descendre en Argentine, où il y avait deux colonies qui se sont ouvertes grâce au baron de Hirsch, qui était la colonie à Carlos Casares et la colonie à Mauricio, dans lesquels on avait recréé des sortes de petits kibbutz, des sortes de shelts, comme ça, orthodoxes, au milieu de la pampa argentine, et dans lesquels on avait en effet des gauchos, comme se sont appelés un peu les cow-boys argentins, des gauchos juifs. Et elle a 12 ans lorsqu'elle arrive à la colonie à Mauricio, reste là, et c'est avec son père qu'elle va traverser la cordillère pour s'installer à Santiago, au Chili, où elle rencontrera Georges Bonnefoy, qui est mon grand-père, etc. Donc je m'étais dit, autant parler de cette autre immigration fabuleuse des Juifs qui, l'immense majorité, en fuyant les pogroms de cette frange de résidence à la fin du 19e, sont partis à Ellis Island et se sont retrouvés aux États-Unis, dont il y a des textes sublimes de Georges Perec sur Ellis Island, mmh. où on retrouve également des malentendus de douane et qui sont délicieux et qui montrent aussi quelle est l'étymologie des noms de famille. Et, mais au contraire, de pouvoir parler de ceux qui sont partis justement en Amérique latine, dans le sud, dont on connaît un peu moins l'histoire. Et pour ne pas parler directement de ma grand-mère Fanny Rosenzweig, parce qu'encore une fois, je ne voulais pas parler de ma famille, je voulais faire un roman, j'ai décidé en effet de le transformer en ce personnage de Hilario Danowski.
Et donc Hilario Danowski et Margot Lonsoigné vont s'engager dans la guerre, aux côtés de la France, comme Lazare, avant eux, l'avait fait lors de la Première Guerre mondiale. Cette fois-ci, on est donc dans la Seconde. Nouvel extrait du livre, cette fois, nous sommes page 117.
Les chasseurs étaient si proches qu'elle sut que le combat était perdu. Assailli, voyant le sol se rapprocher, il était désormais impossible de se dégager. Mais tout à coup, elle aperçut l'avion d'Hilario qui était revenu. Il avait fait demi-tour alors qu'il était hors de danger, brusquement saisi par un geste de bravoure. Margot le regarda foncer droit vers la piste de l'école. En plein vol, Hilario ouvrit la carlingue, actionna son siège éjectable et jeta son avion comme une bombe au milieu des avions allemands. L'explosion fut si impressionnante que les chasseurs qui poursuivaient Margot se détournèrent d'elle et firent volte-face pour porter secours aux leurs. Des colonnes de feu montèrent à 1000 pieds. Au milieu des fumées, Marco put voir au bout d'un parachute Hilario qui tombait lentement vers un groupe de soldats allemands, sauvé des flammes qui l'attendaient au sol. Elle dut assister impuissante à sa chute. Hilario essaya de sortir son pistolet pour ne pas donner son corps vivant à l'ennemi. Il était désarmé. Il tenta d'orienter son parachute vers une falaise de craie et ses belvédères caillouteux, mais les courroies se mêlaient et il ne put changer de trajectoire. Les Allemands patientaient, le visage vers le ciel. Hilario, dans sa combinaison, poussa un hurlement qui déchira l'air et parvint jusqu'à Margot. Elle l'imagina désespérée. Elle se trouva à cet instant devant le dilemme qu'avait vécu son père, Lazare Lonsoigné, lors de sa rencontre avec Helmut Drichmann. Fallait-il commettre un crime ou une lâcheté ? Obligée de prendre une décision, seule dans son cockpit, elle eut des sanglots âpres qui l'étranglèrent. À contre-cœur, Margot tourna ses canons vers Hilario, la main tremblante, referma la paume sur le manche qui se contracta comme une gangue et mit le doigt sur la gâchette, prête à abattre le seul homme qu'elle aimait comme un frère. Elle allait tirer quand, au bout de son parachute, Hilario tourna vers elle son profil joufflu, avec ses petits yeux de cosaque, et lui sourit. Tout parut se résoudre en une fraction de seconde. Dans un ultime geste, il lui fit un signe de partir, de se sauver, de ne pas porter en elle ce crime. La guerre ne devait pas gagner sur les hommes. Il leva le poing haut dans le ciel et, tandis qu'il tombait vers la mort, toucha le drapeau chilien qu'ils s'étaient cousu ensemble sur l'épaule.
Voilà, ainsi se termine ce chapitre qui est tout simplement intitulé Hilario. Miguel Bonnefoy, tous vos chapitres d'ailleurs portent le nom d'un de vos personnages. Pour vous d'ailleurs, quelles sont les caractéristiques d'un bon personnage ?
Ah oui, ça c'est une belle question. C'est sans doute une des caractéristiques d'un bon personnage et avoir des contradictions, avoir des paradoxes et avoir une dualité à l'intérieur. J'avais eu l'impression dans mes premiers livres d'avoir fait des personnages qui étaient un peu trop linéaires et je m'étais donné pour héritage cette tâche, ce devoir ou cette mission d'essayer de donner à chaque personnage une contradiction interne. C'est-à-dire qu'on ait l'impression, en effet, que lorsque tu le développes au début, il fait quelque chose. Donc tu dis, ah, le personnage est bienveillant, sain, et il va dans ce sens. Et puis ensuite, d'essayer de trouver une scène qui est contraire, et que ce soit le même personnage qui le fasse. Et essayer justement de polir et de travailler suffisamment bien l'écriture pour que tu n'aies pas l'impression qu'il y a là une erreur d'auteur, mais qu'il y ait au contraire un véritable cœur qui est en train de battre et qui, comme dans la réalité, tu peux en effet faire des choses qui sont antinomiques avec ce que tu avais cru avant.
Mais justement, c'est toujours l'écrivain qui décide ou parfois le personnage prend le pouvoir?
Alors, j'aime beaucoup cette idée du personnage qui prend le pouvoir. C'est une vieille idée romantique et qui me plaît bien entendu beaucoup. Une fois que le personnage est suffisamment bien développé, il finit par se dresser au milieu de la page et te dit non, mon ami, je vais prendre plutôt ce chemin plutôt que l'autre. Et je pense, par exemple, qu'il y a, on parlait de Marcel Aimé tout à l'heure, ça me fait penser à une très belle nouvelle de Derrière chez Martin, dans lequel justement c'est un écrivain qui parle avec son personnage et le personnage lui demande de ne pas mourir à la fin du chapitre, et l'écrivain lui dit si, il faut absolument que je te tue, parce qu'ensuite moi j'ai un personnage de pompe funèbre qui arrive et qui va. Elle dit oui, mais je vous assure que moi je suis amoureuse. Mais amoureuse de qui? Du jardinier du chapitre 3. Et tu te rends compte, et l'écrivain se rend compte qu'il y a une histoire d'amour qui s'est fait malgré lui, dans son dos, à son insu, au milieu du livre, non?
Donc alors, c'est un problème ou c'est une chance pour un écrivain?
Alors tu me diras, c'est fabuleux. Encore une fois, c'est une idée un peu romantique. Lorsque tu es réellement dans le livre, en train de travailler ton livre, et lorsque tu es devant ta page, eh bien, moi, je n'ai pas encore eu de visite de personnage. Je dois tout à fait reconnaître que c'est du travail, un travail d'artisan et d'ouvrier pour essayer de développer le mieux possible ton personnage et ne pas en faire trop. Parce que si tu en fais trop, en effet, tu finis par dépasser la chair même du personnage.
Mais il y a des personnages parmi les vôtres, Miguel Bonnefoy, qui sont particulièrement impressionnants, et ce sont souvent vos femmes. Elles sont fortes, elles sont extrêmement puissantes, les femmes de ce roman. Ce sont des passionnées, ce sont des êtres qui savent précisément où elles vont.
Oui, eh bien, sans doute...
Elles sont plus fortes que les hommes.
Bien entendu, ça, dans mes livres comme dans la réalité. Et moi, je viens d'une grande famille de femmes dans laquelle je suis pratiquement un des seuls hommes. Et ce sont en effet des femmes qui sont fortes, qui sont courageuses, qui sont participatives, qui sont intelligentes, qui sont brillantes et qui ont su se dresser face aux architectures patriarcales de la société. Donc, peut-être en effet, pour avoir grandi parmi ces femmes, il me semblait évident que mes personnages devaient avoir aussi cette force. Et aussi pour des raisons sans doute d'engagement, humblement, étant homme, je veux croire à qu'il faut accompagner, épauler le plus possible des mouvements féministes pour pouvoir voir la prise de pouvoir et l'épanouissement des femmes dans le monde.
Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errar en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano tiene su andar. Y aunque el olvido que todo deslumbre haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna.
Volver est la voix de Carlos Gardel, une chanson que l'on entend, Miguel Bonnefoy, au détour d'une ligne, dans la dernière partie de votre roman Héritage paru aux éditions Rivage, une dernière partie qui est sans doute la plus rude, la plus brute, puisque la dynastie des Lançonniers va se retrouver plongée dans la dictature. Il y a des scènes de torture, des scènes d'électrochoc notamment, et que vous racontez du point de vue du torturé. Comment est-ce qu'on se met dans la peau d'un torturé ?
Alors, je suis fils de torturé, et c'est la raison pour laquelle ça a été beaucoup plus simple pour moi de pouvoir en parler, dans le sens où j'ai toute ma vie été bercé et entendu ces histoires à table, puisque mon père en parle très librement, sans aucune difficulté, et au point justement de lui pouvoir se purifier avec un système presque cathartique, non, avec la parole. Il a écrit en effet un témoignage, un récit de toute sa dictature quand il avait 18 ans à Villa Grimaldi, et ça m'a permis en effet d'être un des documents essentiels pour pouvoir développer ce personnage. Son livre s'appelle Relato del Frente Chileno, récit sur le front chilien, et c'est avec ce livre, son 350 pages dans lequel tu as des détails horribles de toute la dictature, j'ai tout simplement resserré le livre en deux chapitres, en prenant les passages les plus marquants, les plus forts, les plus profonds, et en essayant en effet de le caler dans la mélasse, dans le tronc du texte.
Voilà, et cela se pose forcément aussi la question de l'héroïsme. Miguel Bonnefoy, on parlait tout à l'heure des éléments constitutifs d'un bon personnage. Quelle définition est-ce que vous faites du héros, de l'héroïsme ? Le héros, c'est celui qui ne parle pas alors qu'on lui dit en arrivant ici, les muets parlent. C'est celui qui est capable de manger de tout, parce que quand on a faim, tout est bon à manger, là, je vous cite encore, ou c'est celui qui survit, tout simplement ?
Compliqué de répondre à ça, parce que est-ce que toutes les personnes qui ont réussi à survivre à Villa Grimaldi, à la torture chilienne ou ailleurs, est-ce qu'ils sont des héros, ou ce sont tout simplement des hommes ou des femmes qui ont eu plus de chance que les autres ? Souvent, c'est juste une affaire de chance, de bonne fortune. Tu tombes sur un tortionnaire un peu moins pervers qu'un autre. Et du côté de mon père, en effet, il y avait l'ambassade de France, parce qu'il avait le passeport français qui lui a permis justement de faire pression pour pouvoir s'en sortir. Pour d'autres, en effet, c'est juste que, à ce moment-là, dans le contexte historique et politique du moment, il y a en effet des changements de garde. Ça fait penser, bien sûr, à l'anecdote de Dostoïevski sur le fait qu'il va être fusillé. Et finalement, il n'est pas fusillé parce que ce jour-là, c'est l'anniversaire du tsar. Et donc, ça change. Enfin, souvent, c'est plus une affaire de chance qu'autre chose. Et le héros fait comme il peut. Du côté de mon père, il avait, au moment de l'arrestation, ils ont tué le camarade avec qui il était. Et donc, pendant toute la torture, lui s'est dédouané de la parole en faisant porter le cadavre à cet ami, en disant au tortionnaire, vous l'avez tué pendant l'arrestation, donc je retourne le crime que vous avez fait contre vous-même. Moi, je ne savais rien, c'est lui qui savait tout. Et maintenant, en effet, c'est juste un malentendu. Ma présence est un malentendu. Donc, est-ce que c'est héroïque ? C'est juste une situation, c'est comme une autre, en fait. C'est un dilemme cornélien.
Est-ce que vous croyez au destin, Miguel Bonnefoy ?
Le destin, ou l'autre nom qu'on donne à la somme des hasards, comme disait Borges. Au fond, qu'importe. Moi, à quoi je crois, et ça me plaît beaucoup ça en littérature, c'est pas tellement au destin, mais à la destinée des personnages. À cette idée que ce fatum dont parlaient les Latins, ou ce ananke dont parlaient les Grecs, c'est-à-dire cette nécessité d'être. Ce je ne sais quoi qui fait que à l'aube de ta vie, il y a des marques, des signes, des lumières, en fait, qui baignent ta naissance et qui font en effet que tout l'arc de ta vie est déjà dessiné jusqu'à la fin. Et c'est la raison peut-être pour laquelle, dans le livre, je me permets de temps en temps d'utiliser des prolepses, donc de régulièrement être en train d'annoncer la fin des personnages.
Voilà, une petite fenêtre vers le futur.
Voilà, une fenêtre vers le futur, c'est une manière de dire au lecteur, le destin de ce personnage est déjà écrit. Que ce soit le destin, que ce soit juste des hasards, que ce soit des coïncidences qui se sont bousculées les unes aux autres, qu'importe. Le fait, c'est que déjà, à la naissance du personnage, tu sauras comment il va mourir. Permets-moi maintenant, si tu viens avec moi, de te raconter comment ceci va se faire. Et c'est sans doute là la clé du jeu littéraire, le pacte que tu fais avec le lecteur, c'est non pas de lui dire à la fin c'est le majordome qui est l'assassin, mais lui dire non mon ami, moi je vais te montrer qu'est-ce qui s'est passé pendant l'enquête.
Merci beaucoup Miguel Bonnefoy. Héritage, un très beau roman paru aux éditions Rivage, dont la destinée est peut-être déjà toute tracée, l'avenir le dira.
Jamais eu mon âge, t'as travaillé trop dur pour ça, toutes les heures du jour à l'usine, à l'entrée du village. Le soir, deux jardins à la fois. Et tout ça pour que tes enfants mangent. Ça, je le sais bien, j'étais là. Sans preuve.
venait du courage pour se lever à ces heures-là, bien avant le jour, de partir dans le pâle éclairage, à main nue sur le guidon froid. Et tout ça pour que tes enfants dorment, ça je le sais bien, j'étais là. J'aurais voulu te ressembler, je le jure, mais voilà, il suffit pas de vouloir, c'était pas dans ma nature. T'as vraiment dû t'interroger, je suis sûr. Un jour, j'ai croisé une guitare, j'ai vécu comme on s'amuse, j'avais les pieds sur terre, et j'étais tout le contraire.
Te ressembler, extrait du nouvel album de Francis Cabrel dans VMDN sur RFI. Un début d'année scolaire qui a été très perturbé cette année, vous le savez, en France, mais d'ailleurs pour tous les enfants du monde, rentrée masquée en raison de l'épidémie de Covid, pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir reprendre les cours avec une kyrielle de nouvelles règles à appliquer. Et la romancière Michèle Lèbre, qui a longtemps été institutrice, vient de publier chez Sabine Vespizère un livre intitulé Tableau noir, un recueil de souvenirs et un portrait parfois assez sombre des difficultés auxquelles doit déjà faire face l'éducation nationale. Fanny Blechner l'a rencontrée pour nous.
Dans ce livre, Michèle Lèbre revient d'abord sur son enfance. Sa grand-mère, son oncle, son grand-oncle et plus tard sa sœur sont enseignants. Elle passe d'ailleurs ses vacances d'été dans les années 50 à jouer dans les salles de classe vides, comme dans cet extrait.
Dans l'odeur âcre de la craie, la poussière qui voile le tableau lorsqu'on passe le tampon de feutre gris, je joue pendant des heures à la maîtresse, avec ardeur, ma sœur aussi. Je suis une Zazie avant celle de Queneau, tout comme Mariette que j'entends crier dans une salle voisine. Nous parlons avec conviction à nos élèves fantômes et nos éclats de voix attirent Madame Falconet, dont nous craignons le regard sévère. L'autorité dont jouissent à nos yeux nos institutrices nous inspire.
Pour autant, devenir institutrice n'a jamais été une vocation pour elle, mais plutôt une décision de ses parents, explique-t-elle.
J'ai aimé ce métier en le faisant. Et c'est plus tard que j'ai compris, après quelques expériences, quelques directives de l'éducation nationale ou des déceptions, justement, que j'ai compris que l'école, c'était une affaire politique.
Et cela se manifeste particulièrement lorsqu'elle quitte le village d'Auvergne où elle était institutrice pour Paris. Durant sa carrière, elle travaillera sous 18 ministres de l'éducation nationale. Avec ses collègues, elle s'investit de plus en plus.
Dans la continuité des luttes féministes des années 70, nous décidons à plusieurs de laisser la fête des mères à l'initiative des familles. Nous expliquons aux parents que cette fête est une invention de Pétain et que nous refusons de cautionner cet enfermement des femmes dans leur seul rôle de mère. Nous tentons aussi de remplacer l'heure des mamans par l'heure des parents. Pas facile.
Il est ainsi question de la grande grève de 1980 et du lien particulier qu'elle tisse avec les parents d'élèves. Michèle Lèbre a surtout enseigné dans les petites classes avec un enjeu de taille, celui de donner l'envie de lire.
Pourquoi apprendre à lire finalement? Si on n'a aucune raison profonde d'apprendre à lire, on n'apprendra jamais vraiment bien à lire.
Si le goût de la lecture naît dès l'enfance, pour Michèle Lèbre, le goût de l'écriture survient également très tôt.
Depuis que je sais lire et écrire, j'ai toujours écrit. Et sans doute l'école, sans que je sache, a nourri mes livres, même si je n'ai pas du tout écrit de livres pour les enfants.
Et en 1995, elle quitte l'éducation nationale.
J'étais dans une sorte de fin d'histoire d'amour qui n'était pas liée à l'école elle-même, qui était liée à ce que je voyais se produire, c'est-à-dire une espèce de déclin de l'école au sein de la société. Elle n'avait plus cette importance qu'elle avait encore. Cette école laïque et républicaine de mes débuts.
Elle était alors directrice d'école, tout comme Christine Renon, qui s'est suicidée à l'automne 2019 et à qui elle dédie son livre.
Elle n'en pouvait plus de tout ce travail, tout ce qui lui tombait sur les épaules en début d'année. Ça m'a énormément bouleversée et j'ai très bien compris pourquoi elle avait fait ce geste.
Le titre de l'ouvrage Tableau noir a d'ailleurs un double sens. D'abord évidemment ce tableau sur lequel écrivent les professeurs.
Je ne sais pas s'il existe encore, parce qu'à la fin de ma carrière, ils étaient plutôt verts les tableaux. Et le tableau noir de la situation de l'école. parce qu'elle est extrêmement mal accompagnée, je dirais, hein, mal dirigée, mal accompagnée.
Car ce récit personnel est aussi un plaidoyer pour une revalorisation de l'école et des moyens qui lui sont octroyés.
Fanny Blechner avec donc Michel Lèbre dans VMDN sur RFI pour son livre Table Noire. Une pause et le journal. On se retrouve évidemment demain et vous m'en direz des nouvelles.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.